Que le Seigneur soit béni. Pendant que vous cherchez dans Hébreux au chapitre 3, une annonce également. Vous savez que nous avons aidé deux familles dernièrement et ces familles ont tenu à vous remercier. On l'a fait discrètement, mais l'aide que vous avez apportée a vraiment répondu aux besoins de ces deux familles. Merci. Merci car je vous assure, c'est une bénédiction quand des personnes se retrouvent dans la difficulté et qu'il y a la somme suffisante pour aider ces personnes à aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons la joie aussi d'avoir monsieur et madame Bordeneuve, mon infirmière. Elle m'a grondé. Elle est arrivée, elle m'a grondé. Vous vous rendez compte? Voilà, si vous ne la saluez pas, ce n'est pas grave. Voilà, la santé. Hébreux chapitre 3, verset 12. Elle m'a grondé parce que j'avais travaillé toute la journée vendredi. Quand même. Merci madame Bordeneuve. Hébreux chapitre 3, verset 12. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Est-ce que c'est important pour vous? Voilà, vous avez vu que nous avons commencé un petit peu plus tôt pour donner la possibilité de répondre à cette prédication, soit en levant la main, parce que c'est bien que Dieu voit également votre réponse, soit en vous mettant debout, soit en venant sur le devant, mais j'aimerais qu'on ait 5-10 minutes pour prier pour ceux qui le désirent et qui veulent aller plus loin. Vous comprendrez mieux la raison de cet appel à la fin de cette exhortation. Hébreux chapitre 3, verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Verset 1er du chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux chapitre 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, regardez bien le verset qui suit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, je le relis, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Voilà le verset que je voudrais partager avec vous ce matin, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Un des enseignements de ce texte, nous pouvons facilement le déduire, si vous entendez sa voix, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'entendent plus la voix de Dieu. Dans les églises, on peut assister au culte, entendre par les oreilles physiques un son, un discours, mais entendre la voix de Dieu. Cette parole est une grande grâce, vous allez le voir. C'est une grande grâce. Mais c'est aussi un avertissement. Ce n'est pas incompatible du tout. C'est un avertissement. C'est une question que nous pouvons poser dans les églises. Est-ce que les chrétiens entendent la voix de Dieu? Est-ce que vous entendez? Ou est-ce que vous vivez dans cette espèce de bruit dans tous les domaines qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu? L'autre jour, j'étais marché, car on m'a conseillé de marcher. Tous les gens presque que j'ai croisés étaient avec un Walkman, avec des écouteurs, à pied, avec le téléphone en train d'envoyer des textos. Franchement, je me suis dit, mais les gens, ils sont tout le temps en train de s'étourdir, de faire des choses, alors qu'on a besoin de silence. Je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin de silence? J'espère que vous aimez la compagnie, que vous aimez le monde, mais que vous aimez aussi le silence. Je crois qu'il faut aimer les deux. Si vous n'aimez pas le silence, si vous n'aimez pas vous retrouver seul, ce n'est pas bon signe. Il y a des gens, dès qu'ils se lèvent, claquent la télé, la radio. Je pense que c'est bien de s'informer, que c'est bien de regarder. Mais franchement, mes frères et sœurs, aimons le silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. N'est-il pas écrit, soyez prompt à écouter, lent à parler. Les textes, il se tiendra solitaire et silencieux, car l'Éternel le lui impose. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Fais silence devant l'Éternel et il agira. Toutes ces choses sont vraiment sérieuses, mes frères et sœurs. Arrête-toi pour écouter. C'est écrit dans la Bible. Arrête-toi pour écouter. Il y a des moments où on a besoin de se détendre, mais il y a des moments où on a besoin de s'arrêter. Apprenons, car il se passera ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des gens qui n'entendront plus la voix de Dieu. Dieu leur parlera et Dieu ne pourra pas leur parler parce qu'ils n'entendront pas. C'est une parole d'avertissement, mais c'est une parole de grâce. Est-ce que vous vous rendez compte ce que Dieu est en train de dire? Quand vous étudiez le contexte, ça s'est très mal passé, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas pris au sérieux la parole de Dieu, eux ils voulaient le lait, Jésus leur les a menés dans le désert, ils n'ont pas compris qu'il y avait plusieurs étapes, donc Jésus, dans ce contexte difficile, voilà, aujourd'hui, ça n'a pas marché jusqu'à présent, mais aujourd'hui, je fixe de nouveau un jour. Nous soupçonnons dans ce texte que même si ça a été très mal, Dieu peut bénir aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse aujourd'hui? J'espère que vous avez ce cœur qui peut dire oui, j'ai pas écouté hier, j'ai pas écouté il y a 6 mois, j'étais pas sérieux avec la parole de Dieu. Dieu me parlait, je faisais semblant pour pas choquer, mais je le prenais pas au sérieux. Dieu veut vous parler. Ce texte est un avertissement, on en reste là. Mais ce texte est une bénédiction. Aujourd'hui, Dieu veut vous parler. Dieu vous a-t-il déjà parlé? Est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de ce que Dieu vous a dit? Est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce que vous avez dit, bon, c'est pas grave, il l'a dit à tout le monde? Qu'est-ce que vous avez fait de ce que Dieu vous a dit? Parce que vous savez, quand Dieu vous parle, votre cœur, quand Dieu vous parle par sa parole, Dieu remplit votre cœur de conviction. Moi, je suis étonné de voir des chrétiens. Tiens, l'autre jour, j'ai appris qu'un chrétien, ne le prenez pas mal ce que je vais dire, un chrétien était devenu témoin de Jéhovah. Oui, moi, je me dis, mais quelles étaient ses convictions? Qu'avait-il compris de Jésus? Car Jésus-Christ est Dieu. Vous le croyez que Jésus est Dieu? Quand vous voyez ce que les témoins de Jéhovah disent de Jésus-Christ, ça fait quand même frémir. On est loin de la parole de Dieu. Où cet homme avait-il reçu des convictions? Moi, je ne veux pas juger. Mais c'est quand même révélateur de quelqu'un qui n'avait pas de conviction. Car croyez-moi, quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, je crois qu'on ne va pas l'accepter que comme prophète. Ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. Ce texte est un avertissement, mais ce texte est une bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur est prêt à tout recommencer. Vous vous rendez compte? Vous avez lu le contexte. Si vous lisez dans le psaume 95, où il est parlé également de cette situation, on voit que ça ne va pas du tout. Et pourtant, Dieu recommence. Aujourd'hui, je suis prêt à recommencer. Non, ça n'allait pas l'an dernier. Non, ça n'allait pas hier. Mais aujourd'hui, j'ai envie que ça marche. Où étiez-vous hier? Hier, à Toulouse. Mais où étiez-vous il y a 3 mois, spirituellement? Est-ce que ça allait bien il y a 3 mois spirituellement? Hier, spirituellement, est-ce que ça allait? Peut-être quelqu'un dit, mais moi hier ça n'allait pas du tout. Hier j'étais d'une légèreté pas possible, avec les choses de Dieu. Et les répercussions que cela avait dans mon foyer, les répercussions que cela avait dans l'église, où je ne faisais pas la volonté de Dieu, où ça freine le royaume de Dieu. Où j'en étais, hier ça n'allait pas, mais aujourd'hui Dieu veut que ça aille. Hier j'étais léger, mais aujourd'hui Dieu veut que j'ai une véritable piété. Peut-être hier j'étais bouillant et que je ne le suis plus aujourd'hui. Est-ce que ça peut arriver aussi l'inverse? Eh oui, ça peut arriver. Quelqu'un peut, d'ailleurs peut-être plusieurs personnes ne sont pas là et pourraient dire, mais oui, c'est bien vrai. On était bouillant et aujourd'hui, on n'est même plus dans la maison du Seigneur parce qu'on a tout perdu. Ce texte nous enseigne également que ce qui compte, c'est d'être prêt quand Jésus va revenir nous chercher. C'est important ça qu'on soit prêt. Beaucoup de gens ne seront pas prêts. C'est assez prophétisé. Je pense que vous ne pouvez rien dire à ce sujet. Que de prophéties Jésus a laissées pour dire que beaucoup de chrétiens ne seraient pas prêts lorsqu'il reviendrait. Donc ce message, dans ce message, il y a 3 aspects. Il y a, il y a, il y a une parole aujourd'hui pour les chrétiens fervents, il y a une parole pour les chrétiens tièdes, et il y a une parole pour les perdus. Alors pour les chrétiens fervents d'abord, Dieu a une parole. Il y a peut-être, et je l'espère, au milieu de nous, beaucoup de chrétiens fervents. Y en a-t-il quelques-uns ? Des chrétiens qui aiment Jésus de tout leur cœur, qui sont préoccupés par le fait de connaître sa volonté, j'espère qu'il y en a. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Marthe et Marie étaient deux femmes spirituelles. Est-ce qu'elles étaient spirituelles, Marthe et Marie ? Ben oui, je pense. Je pense. Et pourtant, Jésus, lorsqu'il est arrivé à Béthanie, quelques jours après l'ensevelissement de Lazare, il les dit que Dieu avait une parole pour Marie et pour Marthe. D'ailleurs, c'est Marthe qui a dit à Marie, le maître est ici et il te demande. C'est peut-être la parole que Dieu veut que vous entendiez. Le Seigneur est ici et il te demande. Parce que même si vous êtes bouillant, vous comprenez bien que Dieu a une parole pour vous. Peut-être un travail à faire. Cette semaine, une sœur me disait, mais j'ai failli tout arrêter. J'ai failli tout arrêter parce qu'il y avait les soucis, parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela. Et je réalise que je ne dois pas arrêter. Cette personne a entendu le Seigneur lui montrer l'importance, parce que vous savez, le diable, il fera tout pour que tous les chrétiens ne fassent plus rien. Et plus une église est grande, plus c'est dangereux. Parce qu'on peut se dire, ben moi si je ne le fais pas, c'est le frère qui le fera, c'est la sœur qui le fera. Mais c'est un calcul qui n'est pas bon du tout. Je crois que tous nous devons trouver notre place dans l'église. Et que vous êtes vraiment mal engagés si vous faites partie de ceux qui disent, ben moi si je ne le fais pas, eh ben c'est M. Grandin qui le fera, ou c'est sa femme, etc. Vous devez savoir chacun ce que Dieu attend de vous. Parce que Dieu voit les chrétiens bouillants, et Dieu voit... peut-être aussi que vous avez besoin de réentendre une promesse. Est-ce qu'on peut oublier une promesse ? Est-ce qu'on peut oublier ? Ben oui, on peut oublier une promesse. Qui n'oublie pas certaines choses ? Dieu veut peut-être vous rappeler une promesse. Dieu peut-être veut vous consoler. Est-ce qu'un chrétien bouillant peut avoir été endeuillé et qu'il a besoin d'une parole de consolation ? Mais bien sûr. Donc Dieu sait exactement, peut-être qu'il y a un nouveau défi à relever. Est-ce que ça peut arriver que Dieu, quel que soit votre âge, vous amène à relever un autre défi ? Tiens, je m'occupais des ados, mais maintenant, eh bien, je ressens dans mon cœur que Dieu m'amène à m'occuper d'autres choses dans l'Église. Est-ce qu'il peut y avoir des défis comme ça ? Mais bien sûr. Et l'histoire de Lazare, elle est là pour nous montrer que dans notre famille, il y a des défis à relever. Jésus est arrivé dans cette situation assez difficile, endeuillée, et Jésus a dit « Je suis la résurrection ». Et la vie, il y avait deux sœurs bouillantes dans le deuil et Dieu voulait leur parler. Je suis la résurrection et la vie. Et comme Dieu avait une parole pour Marthe, pour Marie, vous pouvez mettre là aussi votre prénom et dire, tiens, Jacques, Joseph, Bernard, Henri, Paul, Denis et tout ce que vous voudrez, j'ai une parole pour toi, une parole de grâce. Il y a une chose à faire. Car dans l'histoire de Marthe et de Marie, dans l'histoire de la résurrection de Lazare, il y avait quand même quelque chose à faire. Ce n'est pas parce qu'on est bouillant qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe et à Marie ? Ôtez la pierre. Peut-être que même si ça va bien, il y a des choses à corriger. Est-ce que vous croyez que ça peut arriver, ça ? Mais oui. Et je voudrais parler aux chrétiens bouillants. Vous qui êtes fervents pour le Seigneur, je sais qu'il y en a dans l'Église, heureusement. Mais soyez soucieux d'entendre ce que Dieu a à vous dire. Parce que même si tout va bien, Dieu peut dire, pour qu'il y ait le miracle, il faut ôter les épines, il faut ôter les obstacles, il faut ôter la pierre. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de sérieux, j'espère que vous le prenez en considération. Oui, le Seigneur, il est là. Vous le savez, Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais c'est une chose de savoir que Jésus est au milieu de nous, ça n'est une autre de l'entendre nous dire, le maître est ici et il te demande. Il te demande, mon frère, ma sœur, toi qui es bouillant, il te demande à l'heure de la prière. Qu'est-ce qu'on en fait de l'heure de la prière ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est une question qu'il faut absolument poser. Parce que quand même, vous le savez, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Qu'est-ce que je fais de cette parole, moi qui suis bouillant, qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous dites ? Le maître est ici, il te demande à l'heure de la prière. Ou est-ce que vous faites comme je l'entends parfois, « Ah, mais moi j'en ai assez, je prie pour moi, c'est déjà pas mal. » prier pour soi dans la Bible, c'est pas biblique. La Bible nous demande de prier les uns pour les autres. Vous voyez, quand quelqu'un dit, moi j'ai assez de problèmes, moi ça me suffit, j'en ai assez, je prie pour moi, c'est déjà bien. Vous voyez, ben, je suis désolé, ça montre vraiment une triste piété. Je suis désolé, à la limite, si on n'avait pas beaucoup de temps pour prier, eh bien il vaut mieux prier pour les autres que prier pour ces bobos. Croyez-moi. Vous le croyez ça? Le Seigneur est ici et il te demande. Moi je vous dis, mes frères et sœurs, je vous le dis parce que c'est sérieux. Dieu vous demande à l'heure de la prière. Je ne dis pas ça parce que les rayons de prière, pour moi, ne sont pas assez cossus. Il me semble qu'à l'heure de la prière, nous devrions être plus nombreux pour combattre le bon combat de la foi. Il y a la prière individuelle, mais il y a la prière collective, où nous devons ensemble combattre le bon combat de la foi. Il y a, vous avez appris certainement la convention, moi j'y étais pas, mais je l'ai appris par les infos, il y a beaucoup de pasteurs qui sont malades. Je sais, vous l'avez appris. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont arrêtés, des difficultés. Vous avez vu que moi-même, j'ai été arrêté pendant presque 3 mois. C'est quand même pas évident. Et est-ce que les chrétiennes ne se démobilisent pas au niveau de la prière collective? Est-ce que vous priez pour les pasteurs? Est-ce que vous priez pour moi? Peut-être que vous y pensez même pas. Mais moi, je vous dis, vous devez prier pour moi. Vous devez prier pour les pasteurs. Vous devez prier pour les responsables. La prière, c'est quelque chose de prioritaire dans la maison du Seigneur. Ne dites pas, oh, j'ai pas le temps. Moi, si vous saviez le mal que ça me fait quand quelqu'un me dit, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai pas le temps. Alors, oh, j'ai pas le temps, monsieur Gaud, de prier. Moi, je crois que si Dieu nous demande de prier, c'est qu'on a le temps. Ou quand quelqu'un vous dit, pire, ah, mais moi, j'ai pas le temps parce que le mardi, j'ai mon activité sportive. Sans commentaire. Le Seigneur Jésus a dit à Martha et à Marie, où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Est-ce que Jésus savait où était Lazare? Bien sûr. Mais toutes les questions que le Seigneur pose, c'est pas parce qu'il a besoin d'informations, c'est parce qu'il veut retrouver, provoquer la communion avec chacun d'entre nous. Vous comprenez bien que le Seigneur, il sait très bien où on en est. Où l'avez-vous mis? Alors quelqu'un peut dire, parce que dans nos familles, est-ce que dans nos familles, il y en a des morts spirituels? Est-ce que dans votre famille, il y a des morts? Je ne parle pas des morts qui sont décédés physiquement, je parle des morts spirituels. Alors, où ils sont? Où sont ces morts? Alors peut-être quelqu'un dira, comme un jour quelqu'un l'a dit, et que ce n'était pas très bien, suis-je le gardien de mon frère? Vous vous rappelez que quelqu'un a dit ça? C'était pas bien du tout. D'ailleurs, vous avez vu comment ça s'est fini. Parce que, mais moi, la famille, ils font ce qu'ils veulent, c'est un peu vrai. Mais est-ce qu'on ne doit pas quand même s'intéresser à tous ces morts qui sont dans notre famille? Peut-être que vous leur avez parlé et ils vous ont fait la tête. Alors peut-être ce n'est pas une question de leur parler de Jésus, mais ça vaut peut-être la peine de rétablir le contact avec eux. Est-ce que ça vaut pas la peine d'avoir du contact, même si c'est pour partager un repas sans parler du Seigneur, mais qu'il y ait cette communion. Mes frères et sœurs, je sais ce que c'est. Moi, dans ma famille, ils ont presque tous abandonné Dieu. À part trois autres, ils ont tous abandonné Dieu. Ça fait quand même de la peine quand on voit tous des gens qui ont pris le baptême parce qu'ils ont fait de belles expériences. Et vous savez, enfin, je n'ai pas besoin d'expliquer ces choses. Combien de morts spirituelles n'y a-t-il pas dans nos familles? Mais moi, je crois que ça vaut la peine que Dieu adresse une parole aux chrétiens fervents et que nous puissions relever tout à nouveau un défi. Seigneur, je vais reprendre contact avec les membres de ma famille. Je veux, même si ce n'est pas pour, parce qu'ils vont mal réagir si on commence à leur dire, viens à la maison, on va parler du Seigneur pendant 2 heures. Je crois qu'ils ne seront pas l'occasion de venir. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Où est-il? Où est-il ce mort, cette morte dans ma maison? Eh bien, que Dieu nous aide, peut-être à relever des défis et à repartir sur de bonnes bases. Deuxièmement, les tièdes, les chrétiens qui étaient bouillants et qui se sont fait avoir, qui sont redevenus des vases inutiles, là comme quelque chose rangé dans un placard que Dieu ne peut plus utiliser. Ceux qui ont le cœur partagé, ceux qui aiment Dieu, mais en vérité ils aiment le monde plus que Dieu. Vous le savez, comme je l'ai déjà dit, parce que j'ai pris l'image de, s'il faut choisir entre la télé et la réunion de prière, certains, c'est vite choisi. C'est ça, être tiède, c'est qu'on a le cœur partagé et bien. Même si vous êtes tiède, car hélas, je crois qu'il peut nous arriver d'être tiède. Si vous êtes tiède, Dieu a une parole pour vous. Est-ce que vous le savez? Dieu est la parole. Peut-être que ça va pas trop avec Dieu. Peut-être que ça va pas bien du tout avec Dieu. Que vous êtes là au culte et ça s'arrête là. Votre piété à l'église. Votre piété dans la vie. Mais Dieu a une parole pour vous. Que ferez-vous de cette parole? Les chrétiens de Laodicée, étaient-ils bouillants ou étaient-ils tièdes? Mathieu. Comment ils étaient les chrétiens de Laodicée? La Bible dit qu'ils étaient tièdes. Ils étaient tièdes et Jésus, vous le voyez dans cette épître, dans cette lettre aux églises, Dieu a une parole pour eux. Est-ce que Dieu avait une parole pour les chrétiens de Laodicée? Eh bien oui, la preuve, c'est que nous avons cette lettre dont Dieu s'intéresse à nous, même si on est tiède. Vous savez, peut-être quelqu'un me dira, oui, tu es tiède, Dieu va t'abandonner. Écoutez, moi j'ai jamais vu dans la Bible Dieu abandonner quelqu'un. Les hommes abandonnent la foi. Mais Dieu n'abandonne jamais. Et mardi soir, on verra comment Dieu s'y prend pour redonner du courage à ceux qui, justement, s'éloignent. Vous vous rappelez Élie, comment Élie, c'est à cause d'une parole, parce que vous savez, il n'en faut pas beaucoup parfois. Une parole. À cause d'une parole, il s'est trouvé complètement dans le désert. Et comment Dieu s'y prend avec quelqu'un qui se refroidit. Qu'est-ce qui se passe pour les tièdes? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bien de savoir que Dieu a une parole pour les tièdes. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité pour les tièdes? Vous connaissez Apocalypse chapitre 3. Oui, Apocalypse chapitre 3. Il est dit que Jésus est à la porte. Vous connaissez cette affaire? Ça fait réfléchir quand même. N'oublions pas que c'est la dernière église. Tous les théologiens pensent qu'elle représente l'église de la fin des temps parce que c'est la dernière église à laquelle Dieu parle dans l'Apocalypse. Ça tient debout cette affaire. Que l'église de la fin des temps sera tiède, beaucoup tiède. Jésus est à la porte, dehors, et on peut se poser la question, mais comment cela est-il arrivé? Comment Jésus s'est-il retrouvé de l'autre côté? Vous êtes d'accord avec moi? Comment est-ce possible que dans un endroit où Jésus est à l'intérieur, il communiquait sa grâce, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus se retrouve à la porte? Comment Jésus s'est-il retrouvé dehors? Vous allez me dire, il n'est pas loin. Vous savez, il y a des gens qui sont très positifs. Il n'est pas loin, il est juste de l'autre côté. Vous savez, il y a des gens, ils se contentent de cette proximité, de cette approximation. Ouais, c'est pas grave. Il est là quand même. Il n'est pas loin. Ouais. Mais, même s'il n'est pas loin, il y a un obstacle. Il y a une porte. Et il y a une porte fermée. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe dans cette église. Le Seigneur parle à cette église et il lui dit, je connais tes œuvres. Donc, c'est une église qui, malgré le fait que Jésus soit à l'extérieur, travaille. Travaille. D'ailleurs, elle se croyait riche. Elle se croyait riche parce qu'elle faisait plein de choses pour le Seigneur. Par contre, je crois qu'il est important de faire des œuvres. Est-ce que c'est important de faire des œuvres? Est-ce que vous êtes soucieux de faire des œuvres pour Dieu? La semaine prochaine, à l'Assemblée Générale, on va évoquer certaines œuvres que l'Église fait et que l'Église doit continuer à faire. Moi, je serais heureux de vous dire que la formation de Nathanaël a été une bénédiction quand je vois le travail à Rodez, à Villefranche de Rouergue, à De Cazeville. Est-ce que c'est bien? Ça fait partie des œuvres. Je peux vous dire, je connais l'œuvre que vous avez faite pour la formation de Nathanaël. Quelle bénédiction! Est-ce que c'est une bénédiction? Oui, mais les œuvres ne doivent pas remplacer la communion avec Dieu. Les œuvres doivent être le prolongement de la communion avec Dieu. Mais on peut faire des œuvres sans qu'il y ait de communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé dans l'église de Laodicée. C'est qu'ils en sont arrivés à supplanter les choses. Ils ont remplacé la communion par les œuvres. Et c'est un piège, ça. Et c'est vrai que tant qu'on fait des œuvres, on peut se dire, ben, c'est bien. Je fais des œuvres, l'église fait des œuvres, donc ça, c'est bien. Non, c'est pas bien. La priorité, c'est la communion avec le Seigneur. Car je crois quand même que c'est terrible qu'il y ait une porte fermée entre vous et Dieu, même s'il n'est qu'à quelques mètres. Vous aimeriez, vous, que dans votre maison, vous mangiez, vous, dans la cuisine, et votre femme mange dans la salle à manger, la porte fermée à clé? C'est ça la communion? Pourtant, elle est à côté, elle est dans la même maison. Est-ce que c'est l'image d'un couple qui fonctionne bien, ça? Franchement, eh bien non. Pourtant, ceux de l'extérieur n'y voient rien du tout. Parce que le couple, il est dans la maison. Eh bien, c'est ce qui peut se passer dans les églises. Nous sommes tous ensemble, mais nous ne voyons pas qu'il y a un problème. Certains le catalogue rond de petits problèmes, moi je pense que c'est un problème sérieux. Parce que Jésus dit aux chrétiens de cette église, si tu restes tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc le verdict est sévère. Il n'y aurait pas cette parole, on pourrait dire, bon, c'est pas méchant. Mais il y a une parole très 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 sévère qui nous indique que lorsqu'il n'y a pas de communion avec Dieu, il va y avoir un rejet de la part du Seigneur. Parce que Dieu sait où on en est. Il sait, le Seigneur, vous en êtes. Est-ce que Dieu sait où j'en suis? Ben oui. Peut-être que votre conjoint, la personne la plus proche, votre meilleur ami, mais ne sait pas où vous en êtes. Est-ce qu'on peut cacher certaines choses? Ben oui. Mais est-ce que Dieu sait où on en est? Il le sait. Mais Dieu sait où vous en êtes. Mais Dieu sait aussi, surtout, que cette porte, elle sera un jour définitivement fermée. Si c'est sévère, c'est pas parce qu'il y a un problème de communication qui peut être vite réglé. Parce qu'un problème de communication de cet ordre-là, ça paraît ne pas être grave. Mais Dieu sait qu'un jour, cette porte, elle sera complètement fermée. Et vous savez, par les prophéties bibliques, ce qui va arriver à tous les chrétiens qui sont tièdes. Vous rappelez ces vierges folles. Ces vierges folles qui attendaient le retour du maître. Et elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes. Et le résultat, vous le savez, quand elles ont frappé, « Ouvre-nous, maître, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. » Jésus leur a dit, « Je ne vous connais pas. » Jésus les connaissait très bien. Il aurait pu leur dire, « Tu t'appelles Irène, Jacqueline, Isabelle. » C'est pas ça. C'est que Jésus était en train de leur dire, « Je ne vous connais pas. Je n'ai pas de communion avec vous. » C'était pas grave. C'était que de la négligence. Mais Jésus dit qu'elles sont folles. Parce que c'est de la folie que de ne pas bichonner sa communion avec Dieu. Mais vous dites, mais c'est pas grave, tu vois, je m'occupe de la prédication, je suis pasteur, je fais mon boulot de pasteur, voilà, j'ai mon rôle dans l'église. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande pas d'avoir une responsabilité. Dieu nous demande d'avoir une vraie communion avec lui. Cette porte, elle sera fermée un jour. Aujourd'hui, elle est ouverte. Est-ce que c'est bien? Ah oui, c'est pour le troisième point. Le troisième point, on va y venir. Jésus sait ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Demain, il sait ce qu'il aura à nous dire. J'aurais pu faire un discours sur la Pâque. Est-ce que j'aurais pu faire un discours sur la Pâque? Oui, j'aurais pu le faire. Ça aurait été correct, certainement. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, dans sa sévérité, nous montre sa grâce et qu'aujourd'hui, n'importe qui peut recommencer. Quelle bénédiction! Est-ce que ça ne vous rassure pas? Moi, ça me bouleverse. Parce que quand même, quand on voit le contexte, c'était grave. C'était vraiment grave. Mais Dieu nous dit, mais là, aujourd'hui, tu peux repartir avec moi. Dieu sait si vous êtes tiède, il le sait. On peut jouer la comédie. Ce n'est pas une question de jouer la comédie, mais on peut tromper les gens. On peut tromper les gens. Moi, ça m'est arrivé, je vais vous le dire, c'est pas bien. J'espère que vous me garderez après ce que je vais vous dire. Ça m'est arrivé de prendre la Sainte-Cène avec de l'amertume dans le cœur. Vous vous rendez compte? J'ai pris la Sainte-Cène, pas ici, hein, mais ça aurait pu arriver. J'ai pris la Sainte-Cène, parce que je savais très bien que si je ne prenais pas la Sainte-Cène, là où j'étais, ça allait mettre une pagaille dans l'église. Vous vous rendez compte? Voilà. Non, mais j'ai honte, mais je vous le dis, pour que vous compreniez. Vous me gardez quand même? Vous me gardez? Non? C'est fini? Bon, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous voyez, je vous le dis. Parce qu'heureusement que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Ça ne vous rassure pas? Oui, Dieu a une parole pour les bouillants. J'ai honte quand j'y repense. Mais je savais que ça allait mettre une pagaille dans toute l'église, vu l'atmosphère qu'il y avait. Je pense qu'ici, si un jour j'avais un moment difficile, si je ne sais pas comment vous réagiriez, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez? Ce matin, je n'ai pas pris la Sainte-Cène, j'ai un problème. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Franchement, parce que bon, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, bon, monsieur, voilà, vous me direz, monsieur Gou, réglez ce problème, allez, on repart. Mais vous savez, ça peut arriver d'être tiède et d'être bouillant. Ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on est bouillant. Ça ne veut rien dire. On est bouillant quand notre cœur est axé continuellement sur le Seigneur. Et Dieu a une parole pour les tièdes. Il sait, j'y reviens, que cette porte, elle sera un jour fermée. Elle ne sera pas fermée que pour les pécheurs impénitents. Elle sera aussi fermée pour les chrétiens tièdes. Il y a beaucoup de dénominations où on enseigne, ça fait partie des grandes différences de la doctrine, que qu'une fois qu'on est sauvé, on ne peut pas perdre le salut. C'est la sécurité éternelle, c'est un truc de fou. Ça se répand dans plein de dénominations. Quand vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, que vous prenez le baptême, vous ne pouvez pas perdre le salut. Écoutez, quand vous voyez que c'est à cette église que Jésus dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, laissez-moi vous dire que si on ne pouvait pas perdre le salut, les chrétiens ne connaîtraient pas les pleurs et les grincements dedans. Aujourd'hui, oui, Dieu parle aux bouillants, mais aujourd'hui, Dieu parle à ceux qui ont le cœur partagé. Et je voudrais vous aider. Je sais ce que c'est d'être tiède. Je sais ce que c'est d'être un pasteur tiède. Je sais ce que c'est d'être découragé, de m'être fait piéger. Mais cette porte, voulez-vous qu'elle soit ouverte? Voulez-vous l'ouvrir, la porte? Parce que c'est à vous de le faire. C'est à vous de dire, je veux ouvrir cette porte. Je veux une véritable communion. Je ne veux pas que de la communion avec les amis du monde. Il y a des chrétiens, je vous assure, ils ont de la communion avec les amis du monde. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir des amis dans le monde? Moi, je pense que c'est bien de garder contact avec les gens du monde. Nous, on a quelques personnes avec qui on se voit de temps en temps. C'est des inconvertis. On parle du Seigneur. Oui, oui, plus ou moins. Mais notre but à nous, c'est quand même de les amener au Seigneur. Mais quand notre communion n'est qu'avec les amis du monde, moi, je trouve que c'est révélateur. Si je ne me plais qu'avec les amis du monde, moi, je trouve que c'est terrible. Alors, qui a un cœur partagé? Ne levez pas la main, bien sûr. Ne levez pas la main. Qui est tiède? Mais dans quelques instants, j'ai voulu que l'on ait quelques minutes pour que l'on puisse dire, mais Seigneur, je suis d'accord. Je veux cette communion. Vous vous rendez compte si Jésus revenait chercher l'Église? Là, maintenant. Combien diraient, mais qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas écouter? Quel drame de ne pas avoir pris au sérieux la parole du Seigneur. Un cœur partagé est un cœur qui est tiède. Un cœur qui est tiède aujourd'hui, c'est un cœur qui sera froid demain. Je me souviens, M. Chrétien, qui avait fait une prédication sur la vie en 3D. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La vie en 3D, il avait parlé du découragement, de la défaite, et je ne sais plus quoi. Enfin, il expliquait que c'était un processus, que lorsque l'on commence à devenir tiède, eh bien, on finit par abandonner le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Ce n'est pas une prédication le dimanche matin qui règle le problème, croyez-moi. Un cœur qui résiste aujourd'hui est un cœur qui sera endurci demain. Vous entendez la parole de Dieu, vous entendez la prédication du pasteur, mais dans votre cœur, est-ce que vous entendez le Saint-Esprit qui a quelque chose à vous dire? Moi, je vous dis que Jésus aime les tièdes. D'ailleurs, Jésus, dans l'Apocalypse, dit à cette église, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Dieu vous aime. Il vous aime. Et quand Dieu reprend, quand Dieu châtie, c'est pourquoi? C'est pourquoi que Dieu reprend. Vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, si quelqu'un ouvre la porte et que j'entre, qu'est-ce qui se passe? Je vais le gronder jusqu'à ce qu'il en peut. Je souperai avec lui. Nous voyons bien. Encore une fois, l'amour et la sollicitude et la tendresse du Seigneur, le Seigneur s'acharne derrière cette porte. Quelle patience! Non pas pour nous dire, tu vas voir ce que tu vas voir. Le Seigneur continue à taper, continue à frapper. Pourquoi? Pour nous bénir. Je me souperai avec toi. Voyez-vous de quoi nous nous privons lorsque, quand nous sommes tièdes, nous ne voulons pas cette invitation, nous ne voulons pas cette communion avec Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte? Je comprends pourquoi toute bouche sera fermée. Quand on va passer devant Dieu, on ne va pas lui dire, mais oui, tu frappais, mais pourquoi? Mais on le sait. Si Dieu frappe, c'est pour nous bénir. Dieu a une bénédiction pour chacun, une grande bénédiction. Est-ce que c'est bien d'arriver chez quelqu'un et d'amener toute la nourriture? C'est bien? Eh bien, c'est ce que Jésus fait. Je souperai avec lui parce que nous, on n'a pas grand-chose à lui donner. Enfin, je ne sais pas vous. Mais lui, il arrive. Il a tout à vous donner. Quel drame. Parce que quand même, voyez, autant on voit l'avertissement, autant on voit dans ce verset, enfin, moi, j'ai passé 2 ou 3 jours, on voit la grâce de Dieu dans ce verset, qui est capable de dire, ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis prêt à tout refaire et tout oublier, tout pardonner. Moi, vous ne voyez pas la grâce de Dieu? Mais moi, je le vois que ça. Et quand vous voyez comment Dieu parle au tiède, mais je viendrai. Mais ouvre! Alors, peut-être qu'on n'a pas compris certaines choses. Parce que quand on va chercher la joie ailleurs, c'est qu'on n'a pas compris. Sérieusement, un chrétien qui va chercher la joie dans le monde, alors qu'il aurait dû lire, par exemple, que la piété est une source de joie. Est-ce que c'est écrit ? Est-ce que c'est écrit ? La piété est une source de joie. Pourquoi tant de chrétiens n'ont plus cette joie ? Eh bien, parce qu'ils n'ont plus de piété. Et comme ils n'ont plus la joie, vous savez, la joie, on en a besoin. Et si on ne la trouve pas dans le Seigneur, eh bien, on va la rechercher dans le monde. Et voilà ce qui se passe. Si les chrétiens avaient vraiment compris que la piété est une source de joie, une vraie source de joie, parce que cette joie, vous n'avez pas vu cette semaine en Angleterre, ce milliardaire qui s'est suicidé. Eh bien, ça vous prouve que l'argent ne rend pas heureux. Mais heureusement, parce que Dieu aurait été, là on pourrait dire que Dieu est injuste. Oui, il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce que les chrétiens n'auront pas pris au sérieux cette parole. De grâce, aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Ça n'a pas été, tu es léger, tu lis la Bible quand ça te pique une fois par mois. Non. Je crois que tous les jours, nous devons demander au Seigneur notre pain quotidien. Pas le pain, merci Seigneur, il vous le donne. Il vous le donne le pain ? Bénissez le Dieu et n'oubliez jamais de rendre grâce quand vous mangez et de ne pas oublier. Dimanche, je parlais de rendre grâce continuellement et j'ai oublié de dire qu'il ne faut pas oublier. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Parce que c'est une chose de dire merci pour le repas et ça en est une autre de ne pas oublier. Seigneur, merci vraiment. Et quand on voit comment Dieu veut nous parler, quand on voit que ce Dieu est capable alors qu'il n'y a que l'Église qui peut faire l'évangélisation, est capable de dire, allez, ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je fixe de nouveau un jour. Je veux tout à nouveau te bénir. Si vous êtes tiède, prenez au sérieux ces choses. C'est sérieux. C'est pas les choses de la politique, c'est pas les choses du monde, c'est pas les choses de la vie. C'est les choses de la vie éternelle. Ce qu'on est en train de partager ce matin, c'est pour votre vie éternelle. Est-ce que c'est important la vie éternelle ? Franchement, qu'on meure jeune, qu'on meure vieux, qu'on meure riche, qu'on meure pauvre. Franchement, aux yeux de l'éternité, quelle importance. Mais aller en enfer, c'est quelque chose de terrible. Vous rendez compte, il est à la porte. Vous rendez compte, si le Seigneur était là, de l'autre côté de la porte, vous direz, mais on est fou. J'avais qu'un mot à dire. Seigneur, j'ouvre, un acte de foi à faire. Seigneur, je suis d'accord, entre. Vous ne voulez pas que le Seigneur vous donne à manger, vous rassasie de ses mets succulents? Vous pouvez. Je comprends pourquoi il est écrit « Attachez-vous aux choses que vous avez entendues de peur que vous ne soyez emportés loin d'elles. » Le problème des tièdes, c'est qu'en vérité, ils aiment le monde plus que Dieu. Ils aiment Dieu. Si vous demandez à n'importe quel chrétien « Est-ce que vous aimez Dieu ?» Tous vous diront oui. Mais s'ils étaient honnêtes, ils vous diraient « Oui, mais j'aime le monde plus que Dieu. J'aime le match de foot plus que la réunion de prière. J'aime le sport plus que la réunion. » C'est ça être tiède. Bon, est-ce qu'il y a du temps pour faire du sport ? Est-ce que c'est bien de faire du sport ? Moi, chaque fois que je vois mon docteur, il me dit « Monsieur Gros, faites du sport. » Je sais qu'il faut en faire. C'est aussi important que le traitement. Mais je pense que la piété, c'est plus important que le sport. La piété, c'est plus important que le reste. Croyez-moi, aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, allez, on l'oublie. Mais aujourd'hui, qui veut avancer dans les voies du Seigneur ? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce maître ? Au fait, vous qui connaissez Jésus, vous qui avez pris le pain et le vin, qu'est-ce que vous dites de ce grand maître de l'univers ? Qu'est-ce que vous dites de lui ce matin ? Est-ce que vous ne pouvez pas dire, mais quelle patience ! Quelle patience ! Quand on lit un verset comme ça, la façon dont je viens de vous le présenter, nous sommes obligés de dire, quelle patience ! Quelle patience le Seigneur n'a-t-il pas ? Il y a une porte. Elle est ouverte, elle peut s'ouvrir. Si vous êtes tiède, vous devez le reconnaître. Vous ne devez pas dire, non, je suis là, donc je peux être bouillant. Non, si vous aimez les choses de la terre plus que les choses de Dieu, vous êtes tiède. Si le service, ce n'est pas important, il y en a d'autres, il y a du monde dans l'église, ils sont plus de 400, ce n'est pas grave. C'est que vous êtes tiède. Vous devez dire, non, je dois chercher le Seigneur. Je dois chercher sa face. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Peut-être que Dieu vous appellera à la prédication. Peut-être que vous serez infirmière, je ne sais pas, dans un pays, en Outre-mer. Peut-être que vous vous occuperez que de quelques voisins que Dieu vous mettra à cœur. J'en sais rien. Mais vous devez savoir ce que vous avez à faire dans une véritable communion avec le Seigneur. Moi, quand quelqu'un me dit, oh, j'en ai marre de servir Dieu, j'en ai marre des gosses, il me saoule ces gosses dans l'église. Mais c'est sûr que s'occuper des enfants, ce n'est pas facile. Mais quand Dieu nous demande quelque chose, ça doit être une bénédiction. Ces enfants, vous ne savez pas ce qu'ils deviendront. Qui vous dit que le plus pénible, ce ne sera pas peut-être le plus grand serviteur de Dieu? Est-ce que ça peut arriver, ça? Est-ce que, si vous discutez avec mes parents, discutez avec mes parents. Dites à ma mère, comment était Gérard quand il était petit? Demandez-lui, demandez-lui. Est-ce que Dieu peut changer le cœur d'un homme? Ben oui. Alors, mais quand quelqu'un parle comme ça, c'est parce que des enfants qui ne supportent plus, c'est qu'il n'y a pas de communion. Parce que je crois que quand Dieu nous donne son amour, quand Dieu nous donne sa vie, quand Dieu nous donne sa paix, on peut l'apporter aux autres. Je sais que ce n'est pas facile, je le sais, je suis bien placé, mais je crois qu'on peut le faire avec cœur, parce que c'est ce que Dieu nous demande. On ne le fait pas parce que c'est gratifiant, on le fait parce que le Seigneur nous le demande. Oui, Dieu a une parole pour les bouillants et Dieu a une parole pour les tièdes. Et je termine. Dieu a une parole pour ceux qui sont perdus. Il y a peut-être parmi nous des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Ça peut arriver. Dans chacun de nos cultes, il y a des personnes nouvelles qui viennent, qui découvrent l'Évangile, certains de nos enfants parfois qui viennent, et qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas encore entendu l'Évangile, qui ne sont pas passés par la repentance. Il y a des gens qui viennent depuis longtemps et qui ne prennent pas le pain et le vin parce qu'ils n'ont pas encore... cédé à l'appel de la croix. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ils restent toujours assis pendant la Sainte-Cène. Nous, on pourrait dire, mais franchement, c'est terminé. Que penser de quelqu'un qui vient depuis 5 ans et qui ne prend pas la Sainte-Cène parce qu'il n'est pas converti? On pourrait dire, il n'y a plus d'espoir. Eh bien, Dieu dit aujourd'hui, il y a une parole pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Vous entendez, vous qui prenez pas la Sainte-Cène, vous qui êtes de passage, qui peut-être venez que de temps en temps, vous dites, oh ben moi, Dieu m'a mis de côté sûrement, ça fait 5 ans que je viens, je ne prends pas au sérieux ces choses. Eh bien écoutez, moi je vous dis, aujourd'hui, Dieu a une parole pour vous. Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Nous, peut-être qu'on a baissé les bras parce qu'on ne sait plus quoi vous dire, mais Dieu, il a une parole pour vous. Est-ce que vous entendez? Parce que des fois, on ne sait plus quoi dire. Quelqu'un qui vient depuis 5 ans, 10 ans, alors, tu te repens pas? Ouais, oui, je ne sais pas si Dieu m'aime. C'est sûr que ça nous peine. Mais Dieu, lui, dans sa grandeur, dit aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Je t'appelle. Vous vous rappelez quand Dieu a appelé Bartimée, que tout le monde dit, non, faites-le taire, faites-le taire. Et le Seigneur s'est arrêté pour le clochard. Bartimée, un clochard. Dieu s'arrête pour un clochard? Mais Dieu s'arrête pour tous les hommes. Que vous soyez un clochard, que vous soyez un millionnaire, ça n'a pas d'incidence. Ce qui est important, c'est le salut de votre âme. Dieu s'est arrêté, il avait une parole ce jour-là, cet aujourd'hui-là, pour ce clochard. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Dieu a une parole pour les perdus. Si vous êtes négligent des choses de Dieu, ne dites pas c'est terminé. De toute façon, il y a des gens qui m'ont dit maintenant, toi, Dieu ne veut pas te sauver. Je l'ai entendu ça. Une fois, j'ai entendu même une prophétie. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que Dieu te parle. C'est la dernière fois que Dieu t'appelle. Ça peut arriver pour la personne qui va mourir le jour même. Mais je ne sais pas si c'est intelligent de dire ça. Parce que ça, c'est la pensée humaine. C'est pour ça que Dieu nous demande d'examiner les prophéties. Parce que je crois que chaque jour, Dieu est capable d'interpeller quelqu'un. Après, c'est vrai que le cœur peut s'endurcir. Bon, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, Dieu a une parole pour vous qui n'êtes pas sauvés, vous qui êtes écœurés de la religion. Est-ce qu'il y a des gens qui sont écœurés de la religion? Ben oui, parce qu'ils disent, voilà, Dieu c'est la religion. Ils ne connaissent Dieu qu'au travers de la religion. Combien je les plains, parce que j'ai connu cette affaire. Quand on ne connaît Dieu qu'au travers d'une religion, même la nôtre, quelle tristesse! Parce qu'on peut dire, oui, quand même, c'est mieux cette religion. Mais si vous connaissez Dieu qu'au travers de la religion, vous êtes vraiment mal. On ne connaît pas Dieu au travers d'une religion, même serait-elle pentecôtiste. On connaît Dieu au travers de son amour, au travers de la croix, au travers d'une expérience profonde. Vous qui êtes écœurés de la religion, eh bien Dieu a une parole pour vous. Vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, Dieu a une parole pour vous. Vous qui êtes déçus par les églises. Tiens, est-ce qu'on peut être déçu par les églises? Ah ben oui, eh ben Dieu a une parole pour vous. Vous qui êtes scandalisés par des chrétiens qui ne l'étaient que de nom. Parce qu'un vrai chrétien ne scandalisera pas. Je ne crois pas. Ou s'il le fait, il va se corriger. Est-ce que vous avez déjà été scandalisé par un chrétien? Mais oui, c'est terrible ça d'être scandalisé par quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne l'est pas bien sûr. Eh ben Jésus a une parole pour vous sauver aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a une parole pour les bouillants. Aujourd'hui, Dieu a une parole pour les tièdes. Aujourd'hui, Dieu a une parole pour les perdus. Vous pouvez l'invoquer, même si on vous a dit, toi tu ne pries plus, vraiment, tu es minable, tu te rends compte de ce que tu as dit contre Dieu, c'est même pas la peine que tu le pries. Vous pouvez le prier, vous pouvez l'invoquer, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Il s'est arrêté pour le clochard Bartimée, croyez-moi, il s'arrêtera pour vous. Il vous appelle, il veut vous sauver, c'est pour ça que je voudrais terminer. On a 20 minutes, 25 minutes d'avance, même si ça prend que 5 minutes, c'est pas une question de temps. Mais je voudrais vraiment que vous compreniez que le Seigneur vous appelle ce matin. Il ne veut pas que vous entendiez une prédication de plus. Il vous appelle. Il appelle les bouillants. Il appelle les tièdes. Il appelle les perdus. Si vous êtes perdus, Dieu veut vous sauver. Vous faites, combien de gens, ils vont fêter Pâques? Mais combien de gens, vous avez entendu cette semaine, les chocolats, tout ça. Pâques, c'est devenu des bonbons au chocolat. Même parmi les chrétiens. Pâques, c'est Jésus-Christ qui est vivant, qui est ressuscité et qui veut parler aujourd'hui. Il a une parole. Il veut vous sauver si vous n'êtes pas sauvé. Il veut vous montrer la croix. Il veut vous donner de l'espérance. Peut-être que vous êtes désespéré. Peut-être que vous êtes à deux doigts de vous suicider. Vous savez, moi, le suicide, c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre quand on voit combien les gens sont désespérés. Mais quand vous savez ce qui est réservé aux suicidés, je pense qu'il vaut mieux faire attention. Mais si vous êtes désespéré, si vous connaissez Jésus, votre cœur sera rempli d'espérance. Oui, Dieu a une parole. Qu'est-ce que vous dites ce matin? On ferme les yeux quelques instants. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites, oui, je suis d'accord? Quelle est la réponse qui sort de votre bouche, de votre cœur? Quelle est la réponse? Est-ce que c'est oui, je suis d'accord? Est-ce que c'est un oui sincère? D'accord, bien sûr, c'est la parole. Bien sûr que si vous êtes d'accord, tous vous êtes d'accord. Enfin, si vous êtes sauvés, vous êtes tous d'accord. Mais est-ce qu'un chrétien dira, oui, je reprends du service, il faut que je reprenne du service dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'un bouillant dira, oui, je veux travailler, dans ma famille, il y a des morts, il y a des morts spirituelles, je veux travailler pour ces gens qui sont morts spirituellement, je veux travailler. Tu me demandes, Seigneur, de retrouver du service, de relever un défi, de prier, eh bien, je veux le faire. Oui, qui répondra oui? Alors, on va faire quelque chose de simple, mais de vrai. Peut-être que quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui. Peut-être a besoin que quelqu'un a besoin qu'on lui impose les mains. Il a besoin. Eh bien, avancez-vous. Peut-être quelqu'un veut tout simplement lever la main envers Dieu. Ce n'est pas envers moi. Moi, j'ai mes yeux fermés. Je ne vous regarde pas. Mais peut-être que vous montrez à Dieu, Seigneur, oui, je veux retrouver du service. Je veux faire ce que tu me demandes. Quelle grâce! Quelle grâce! Aujourd'hui, tu me fixes un nouveau jour. Quelle grâce! Oui, c'est sévère, mais quelle grâce! Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être se lever à sa place et dire, Seigneur, c'est ma façon de te répondre. Je me lève, Seigneur, pour te dire oui. Je vais trouver ma place dans l'Église. J'en ai honte de m'être reposé sur les 399 autres. Seigneur, pardonne-moi. Alors, que vous éprouviez le besoin de vous lever, de lever la main, de venir sur le devant. Prions quelques instants. Prions, mes frères et sœurs. Prions.